Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui écoute les Foo Fighters.
Avec
de la musique.
Non, avec qui?
Dave Grohl.
Non,
avec
Lemmy.
Et Lemmy Kilmister qui fait un petit passage dans le dernier album que je vous recommande, mais ce n'est pas vraiment de la BD, c'en est plutôt éloigné. On aurait pu en faire un hors sujet, mais ça sera pour dans 15 jours. Nous allons plutôt nous intéresser d'abord à vous dire bonjour. Je suis Wanaipié, je suis accompagné de Thio, mon camarade.
C'est moi.
Voilà, mon joyeux camarade. Et nous avons un programme chargé aujourd'hui car nous avons parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Nous allons commencer à vous donner les résultats de notre concours. Oui, nous avons passé une bonne petite heure à l'instant à essayer de trouver les résultats. Ouais, autant que ça. Voilà.
Vu l'heure qu'il est, plus d'une heure.
Ouais, on a préparé l'émission aussi. Ensuite, nous allons parler de toutes nos BD que sont Ultimate Avenger, Aslak, Tattoo Mania, Paulina, Le Petit Chaperon Rouge... On fera une petite coupure avec une interview de Le Reculé en partenariat avec Virus BD, donc qui a fait cette interview-là. Donc Le Reculé, c'est le dessinateur de Wolodrin, scénarisé par David Chauvel, ne rigole pas. Un petit intégral sur le meilleur du mois et on enchaîne sur le online. Et là, on vous laissera la surprise, vous verrez bien si vous avez le courage de nous écouter jusqu'au bout. Commençons par vous remercier, car vous êtes plus de 100 fans sur notre page Facebook. Waouh, c'est un nombre phénoménal. Bientôt le monde. Dis-leur merci, Thio.
Merci.
Voilà, donc
c'est toujours difficile de dire merci.
Et sachant que dans ces 104 personnes, j'en connais que 31 personnellement. Oh, c'est pas la classe quand même.
Donc on est sorti du cadre familial.
Donc vous pouvez aussi devenir fan si vous nous aimez. Et enfin, les résultats du concours. Donc nous avions demandé.
On gagne quoi en fait sur Facebook quand tu arrives à 1000, 2000
Je sais pas, on gagne juste le droit de donner des sous à Mark Zuckerberg.
Ça fait pas rêver.
Oui, ça fait pas rêver. Les résultats de notre concours. Nous avions demandé de trouver qui étaient les 50 000 personnages présents sur notre bannière. 28 pour être exact. Et arrête de faire ce bruit avec la tasse, c'est horripilant.
Il est bon ton café, Gringos.
Hey. Et donc on va vite fait vous les donner, même si la solution sera disponible sur la page du concours. Nous avions donc, ils étaient numérotés, nous avions donc numéro 1, Titeuf, numéro 2, Garoulfo, numéro 3, Marv de Sin City, numéro 4, Blackjack, numéro 5, Astro de... Plutôt, ou Astro Boy.
Ou Astro Boy aussi.
Ouais. Numéro 6, Spider Jérusalem de Transmétropolitane. Numéro 7, Jérôme K. Jérôme Bloch. On a accepté les Jérôme Bloch, même si c'est un écrivain et que ça n'a rien à voir, mais on s'est dit que... Voilà. En numéro 8, nous avons Hellboy. Certains nous ont dit Anung Unrama. Moi, je dis chapeau, parce que j'avais complètement oublié qu'à un moment, on apprenait le vrai nom du personnage. C'est la classe. Nous avions Martin Wittberg, un bonhomme patate. Ça aurait pu être n'importe lequel de ses personnages, mais on a décidé que c'était lui. Bender, de Futurama. Phonebone
de Bone,
sans nom le métabaron, Shotaro Kaneda, très fort ceux qui se souvenaient de son nom, Spirou, d'ailleurs personne n'a donné le prénom de Spirou dans les réponses, je suis surpris pourtant. Ensuite nous avons Fernand de Petit et Grand Vampire, mais là en Grand Vampire, Super Dupont, là il y a eu un grand débat pour savoir si c'était Félix ou Herbert de Vaucanson. Le canard de Trondheim. Alors, je pense que mon frère a voulu représenter Herbert de Vaucanson, car il est fan de donjons. Mais c'est vrai que comme il était en tenue civile, il ressemblait à Félix, un des personnages des BD de Trondheim. Spider-Man, Captain Biceps. Sandman, qui a 40 000 autres noms, mais Sandman nous allait très bien. Puis, bah, Yann Le Borgne, ou Yannor, mon frère, qui a dessiné la bannière, et qui s'est représenté dedans. Daredevil, un rat de Petit Luc, n'importe lequel, on s'en foutait. Tangirl, et bravo à celui qui nous a répondu, Rebecca Buck, car on oublie qu'elle a un vrai nom. Conan Edogawa, Bill Baroud, Rourke et Batman. Et donc, nous avons nos vainqueurs. Alors, ça a été très difficile. On a eu pas énormément de réponses. Faut dire, le concours était un peu difficile. Heureusement qu'on a eu pas énormément de réponses, parce que c'était du boulot à dépouiller.
Oui.
Voilà, c'est le premier concours qu'on organise, donc on sait pas trop dans quel sens le prendre. Nous allons donc 14 vainqueurs. Nous allons commencer par le 14e, en précisant quand même que nous avons eu beaucoup de recettes.
Beaucoup de potions.
Voilà, parce qu'il y avait la question subsidiaire de savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre marmite. Donc beaucoup de potions, beaucoup de recettes. Nous avons eu beaucoup de c'est la potion de Panoramix. Alors bon, c'était marrant, mais voilà. C'était un petit peu trop redondant au bout d'un moment. Et un peu d'originalité, et puis des choses qui nous ont fait rire. Pas forcément les plus fines, vous le verrez, on va pas tout vous raconter, on va juste citer le nom des gagnants. En 14e, nous avons Laurence Clément. En 13e,
Guylaine Delavie.
En 12e, Émilie Dutrieux.
11e, Christophe Dumoulin.
En 10, Jérôme Rouressol.
En 9, Marcel-Claude Girard.
En 8, Fabien Aparicio.
En 7, Françoise Batty.
En 6, Claude Vermerch. Ou Vermeer, c'est dur à prononcer.
En 5, Laurent Le Pennec.
En 4, Marc Laloy.
En 3, Pierre-Éric Luzier.
Qui nous a fait un petit dessin, une retrouche, en nous disant qu'en fait c'était une soupe faite à base de concombre masqué, qui nous a envoyé une image avec, qu'on a beaucoup apprécié. En 2, Sébastien Foucault. Et là, je pense qu'on va pouvoir lire, dire ce qu'il a fait.
Je dirais le premier.
Bravo. Ces héros sont subjugués de voir la schtroumpfette en train de satisfaire ses pulsions sexuelles avec Titi, d'où la couleur verte, sur le cadavre du pauvre Sylvestre qui s'est noyé dans le chaudron, ce qui explique que l'eau bouillonne. Titi ne se ménage pas, puisqu'il n'a plus rien à craindre, même en dehors de sa cage. C'est d'autant plus étonnant que la schtroumpfette ait encore ce style d'envie, alors qu'elle est le seul personnage féminin en âge de procréer dans un village de plus de 100 schtroumpfs dans la force de l'âge. Certes, ils ont des petites queues bleues, mais tout de même, quelle vitalité. Bravo Sébastien, franchement, c'est chapeau. Mais on a apprécié plus... l'absurdité de la réponse de François Duclé-Mortier, que tu vas pouvoir nous lire, Théo.
Super Marmite leur avoue que Chuck Norris vient de pisser dans la soupe qu'ils viennent de manger.
Voilà. C'est beau.
Chuck Norris était encore présent.
Ouais. Et on va remettre un prix spécial à Izou, parce qu'en fait, il s'est implanté sur une réponse, mais il nous a fait un super texte, il s'est bien pris la tête. On va pas le lire parce qu'il est un peu long. On lui demandera s'il nous autorise à le mettre dans les réponses, parce que ça nous a fait rire. Et donc, par égard envers les autres participants, on n'a pas pu te pistonner. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que nous-mêmes, nous allons te faire des ex-libris, que nous allons t'envoyer, car on a vraiment beaucoup aimé ta réponse. Merci, Izou.
Et désolé pour toi.
Désolé pour toi. Voilà. Oui, désolé.
Tu ne sais pas ce que tu vas avoir.
Tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Tu prépare-toi à souffrir, gars. Prépare-toi à souffrir. Bah pour recevoir les ex-libris, c'est notre partenaire Isneo qui se chargera de vous les envoyer. Il me reste encore à voir tous ces détails. Et on peut attaquer l'émission normale. On a perdu tous nos auditeurs qui n'ont rien à foutre du concours. Mais tant pis. Hein.
Au bout de 20 minutes, ils disent bon, on va peut-être parler BD.
Oh non, ça va, on a réussi à tenir 7 minutes seulement sur le sujet. Et nous commençons avec...
Du lourd.
Du très très lourd, le presque neuf. Nouveauté. En nouveauté, nous avons décidé d'essayer un petit truc expérimental. Vous savez qu'on adore les trucs expérimentaux, on en fait plein. Nous allons essayer de définir en deux mots le genre, à chaque fois, en deux mots, le genre de la BD. Et ensuite, nous avons chacun choisi un mot pour définir le dessin et un mot pour définir le scénario. Et bien sûr, sans se consulter. Pour le genre, on s'est mis d'accord quand même, mais pour le reste, non. Ça nous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus clair, d'un peu plus concis pour se faire une idée de la bande dessinée. Et puis ça nous donne aussi l'occasion de rebondir et peut-être d'être un peu, de pas se perdre dans nos discours. Et nous allons parler de...
Ultimate Avenger numéro 6.
La fin de l'arc de Frank Millar est dessinée par Lenil Francis Yu. Eh bien, le genre, en deux mots.
Bourrin.
Toilette. Oui, car c'est de la bonne bande dessinée de toilette.
Et bien bourrine.
Et bien bourrine. Parlons du scénario. Et là, c'est là qu'on va rigoler. Le scénario, ton mot.
Entendu.
Bourrin. C'est du bourrin entendu. C'est assez classique. On poursuit un petit peu la suite de du Ghost Rider qui veut tuer le président. Et en fait, il y a un autre Ghost Rider qui arrive et enfin... Pff.
Puis en fait, il y en a un qui fait « Ouais, tu sais, quand moi aussi, je veux être un homme libre. Tu pourrais m'aider, tu pourrais fermer les yeux. » Et hop, tu te retournes, je pars en courant. Et hop, quand tu te retournes, je suis plus là. Et tu me verras plus jamais.
Le dessin, commercial.
Efficace.
C'est du commercial efficace. Je pense que c'est super résumé. Ça marche bien, le coup des deux mots. T'es pas d'accord?
Oui, enfin, là, c'est le premier coup. C'était facile, c'est l'Avenger. Donc là, on peut être d'accord.
Non, effectivement, Lenil Francis Yu a un style graphique, moi, que j'aime beaucoup. Je l'ai vu plus inspiré sur certains trucs, mais ça doit dépendre aussi des encreurs. Et là, il en a pas mal, il y en a trois quand même qui passent sur lui. Il y a Jerry Allen Gillan, Edgar Tadeo et Jeff Huey. ôte ce rire narquois d'analyse de ma phrase.
Non, ça va être complexe aujourd'hui. Hein. Comme à chaque fois, en fait.
Voilà. Léry Lenguilan, qui a fait d'ailleurs une super bonne BD qui s'appelle Elmer, qu'il faudrait qu'un jour on achète pour chroniquer.
Note pour plus tard, on fera une liste. Hein.
Ouais, elle commence à grossir la liste.
Fais attention parce que tu as mis un petit peu de citron sur le.
On va éviter de tout tremper. Ah.
Même si c'est les Avengers, on peut quand même éviter de le mouiller.
Oui, ne mouillez pas les Avengers. Bref, on va s'arrêter là sur Ultimate Avenger. On a dit ce qu'il y avait à dire. Hein.
Bah c'est efficace. Ça reste pas cher quoi pour finalement un petit.
Bah disons que pour moi le côté du surnaturel ne colle pas et mal amené dans cette série en fait. Surtout ça.
Bah, on a connu peut-être Millar un peu plus inspiré.
Voilà, beaucoup plus inspiré même on va dire.
Et on passe maintenant à Aslak. Numéro 1.
Aslak par Hub, Wetten, Michalak et Drac. Donc ça fait beaucoup de monde qu'on bosse dessus. Hub est connu pour avoir dessiné, scénarisé Oko. Là, il n'est que scénariste. Et puis, on a beaucoup de monde qui se partage dessin. Le dessin, on a Emmanuel Michalak, Wetten s'occupe des dialogues et aussi du scénario. Donc c'est vraiment un travail collaboratif et on a Drac aux couleurs. Les coloristes sont de plus en plus notés sur les couvertures. Je trouve ça plutôt classe.
C'est bien de reconnaître le travail aussi.
Oui. Aslak, c'est une bande dessinée, on va dire, nos deux mots sont conte et aventure. Pourquoi conte ? Car Aslak raconte l'histoire des conteurs d'un roi nordique, qui en a marre d'entendre toujours la même histoire, et qui vient en gros de tuer le père de deux jeunes, parce qu'il racontait toujours les mêmes choses. Et il demande aux deux jeunes de partir, et ils ont un an pour trouver de nouvelles histoires à lui raconter, sinon... Leur mère et
leur petit frère,
ils y passent. Et donc les deux frangins passent, sauf qu'on se rend compte très très vite que dans les frangins, il y en a un qui est un peu plus prêt à tout que l'autre.
Bah il y a le naïf,
voilà.
Il y a Candide et puis il y a l'autre.
Donc on a Skeggy qui se met avec le gros bourrin Roald le Borgne, aucun lien de parenté. Et nous avons Sligand qui embarque à bord de l'Aslak, donc avec une jeune capitaine fougueuse. Fougueuse.
Oui,
ouais, plutôt bien les nerfs. Quoi.
Bah, il vaut mieux qu'elle soit fougueuse parce que vu ses rameurs...
Oui, disons qu'en gros... sur son drakkar, c'est que des vieux, quoi. Enfin, c'est... Et donc on suit les aventures de ces personnages-là qui vont essayer de trouver le premier conteur, celui qui aurait raconté les premières histoires, pour avoir du neuf.
Et donc les mots ?
Les mots du scénario.
Ah bah ouais, quand même.
Les mots du scénario.
Scénario, ouais, pour moi c'est Eric le Viking.
Moi c'est abîme, mais mise en abîme. Pour de la mise en abîme.
Pour l'histoire dans l'histoire de...
Oui.
Ah ouais.
En gros, on a quand même, je trouve, quelque chose de super bien construit sur... On nous raconte quand même l'histoire de gens qui vont chercher une histoire. Alors, soit le scénariste s'est pas foulé et s'est dit « Qu'est-ce que je pourrais raconter sur comme histoire ? Ah, si j'ai raconté l'histoire de gens qui cherchent une histoire !» Soit il a très très bien amené les choses, mais je penche plutôt pour le bien amener les choses. Toi, t'as pensé à Eric le Viking ?
Ouais.
Sur quel genre ?
Sur le ton, sur la quête, parce que Eric le Viking, c'est une quête au départ. Hein. Et sur le ton et l'humour qu'il utilisait. Ça m'a bien fait penser... plus au livre, mais quand même pas mal de petites images du film, quand même.
C'est quand même moins parodique, moins délirant que ce qu'on peut avoir dans le film. Et on a un petit peu ce côté humoristique qu'on a dans le livre. C'est de l'aventure, hein. C'est de l'aventure bien racontée où il se passe pas mal de choses en fin de compte dans ce premier tome.
Et le dessin est pas mal, moi je trouve ça.
Et ton mot pour le dessin ?
Beau.
Et moi c'est Goscinny. Pardon, Uderzo, j'ai dit une grosse connerie. C'était Uderzo que je voulais dire. Je suis fatigué. C'est...
Oh la vache.
Bah, le dessin m'a fait penser à du Uderzo. Je trouve qu'il y a une façon de dessiner les personnages. C'est... Mais Uderzo dans Les Chevaliers du Ciel. Pas le Uderzo d'Astérix avec ses gros nez, tu vois. Le Uderzo réaliste. Ça m'a fait penser à ce côté-là, ce côté dynamique. Ça m'a vraiment pas mal plu. Et toi, beau, tout simplement.
Ouais.
Il y a pas...
Bah, disons qu'il y a des... Si tu veux, j'hésitais entre beau et classique. Parce qu'il y a des pages, justement, au tout début, où tu vois en fait des vikings de loin, et ça m'a fait penser à...
Ah, des vikings de loin. Ça Ça y est, tu as un trou, tu fais un time war.
Torgal.
Torgal, oui.
Torgal à un moment, voilà. Donc du coup, c'était, voilà, je trouve ça beau.
Ça a un côté quand même un peu moins réaliste dans le style. Enfin, c'est vrai que c'est joli.
C'est un peu moins réaliste, mais c'est voilà, c'est joli.
Et les couleurs sont assez sympathiques. Tu te rends compte, on a réussi à parler du style de dessin sans dire caricatural. On progresse.
Ouais, tu viens de le dire.
Merde. J'ai beaucoup aimé, ça m'a donné envie. Bah moi, je l'ai acheté parce que c'était Edmond Touriol qui en parlait, et qui en disait beaucoup de bien, et qui m'a un peu convaincu. Edmond Touriol, le scénariste de Urban Rival, et traducteur de Robert Kirkman, principalement, chez Delcourt. Voilà.
Toujours citer ses sources.
Toujours citer ses sources. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, merci pour cette découverte. Ça m'a bien fait plaisir. Mm. On vous le recommande. C'est un très très bon moment. C'est bien écrit, bien sûr. C'est à suivre. Donc comme toute bande dessinée franco-belge, on parle de la suite l'an prochain.
Bah, au bout de 12 mois. 12 mois. À peu près le temps qu'il faut pour se décider pour faire les tatouages chez les Vikings. Et donc du coup, on passe à Tatoumania.
Tatoumania numéro 1. Oh là là, cette transition de folie.
Alors là, c'est un peu de l'humour spécialisé quand même, hein, Tatoumania.
Bah d'ailleurs, c'est le genre qu'on a donné. Humour et spécialisé en deux mots.
C'est ce que je viens de dire.
Oui, donc tu l'as bien dit.
Merci. Donc, humour spécialisé, c'est chez...
Bambou.
Donc, l'éditeur, on va dire, qui fait aussi beaucoup de bandes dessinées spécialisées.
En humour. Moi, je vais être franc, sur la BD d'humour, c'est des BD en une planche d'humour, je suis super mauvais public. Dès le départ, je l'annonce, j'ai tendance à pas accrocher. Maintenant, je vais essayer d'être objectif par rapport au genre. C'est bien écrit, c'est assez efficace. Faut aimer les tatouages, quoi. Qu'as-tu choisi
Les mots du scénario.
Allez, scénario.
Efficace.
Documenté.
Ben voilà, non, c'est ça.
Les scénaristes, c'est bien renseigné. Je pense que Richard DiMartino, donc, c'est Cazeneuve au scénario et DiMartino au dessin. Donc DiMartino que nous recevons dans la semaine prochaine,
yeah,
dans notre prochain hors-série.
Je crois que je serai fatigué ce
jour-là. Ouais, tu seras fatigué ce jour-là, ouais, c'est ça. On va pas beaucoup t'entendre.
Je serai un petit peu absent.
Donc d'un point de vue scénaristique, voilà, c'est bien documenté. On voit qu'il s'y connaît en tatouage. Il y a toujours la peur avec ce genre de BD-là, bah, qu'au bout d'un moment... qu'un numéro 2 soit pas forcément nécessaire, quoi. Donc sympathique, faut aimer le genre. Je pense que c'est un très bon cadeau pour si vous avez des gens qui adorent les tatouages, ils rigoleront en le disant.
Je pense qu'il faut connaître le tatouage pour quand même le.
Voilà, tu t'y connais plus que moi à ce niveau-là.
Bien sentir le truc, quoi. C'est. Voilà. Il y a pas mal de scènes où c'est ce qu'on a pensé avant de se faire tatouer, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on a. Voilà, c'est plein. Plein de scènes de vie, je dirais, je pense, du tatoueur.
Et les dessins ?
Dynamique.
Multi-influencé. Voilà. Ah. T'as vu ce mot ?
Alors, dynamique, j'étais resté soft. Mais là, c'est toi, c'est multi...
Influencé. Je cherchais un mot pour résumer ma pensée. J'ai eu du mal, donc j'ai mis multi-influencé. Je trouve que les personnages sont dessinés d'un style différent en fonction... du type de personnage. Par exemple, le tatoueur principal est un personnage classique à gros nez, très BD franco-belge, avec des expressions très BD franco-belge, bah le gars, le balèze à gros nez. Mais quand tu te tournes vers sa fille, qui l'assiste donc dans son cabinet de tatouage, t'as un côté beaucoup plus dynamique, avec une approche plus manga des expressions, qui fait une sorte de contraste, et je trouve que c'est bien mélangé. On sent plein d'influences qui sont mélangées, mais qui sont adaptées à chaque personnage en fonction de sa personnalité. T'as vu un peu cette analyse ?
Ah ouais, non.
Et tout ça, c'est dynamique.
Bah, tu l'as déjà dit, en fait.
Voilà, non, c'était pour te...
Quand t'as parlé de la fille, t'as dit oui, c'est vrai, ouais, c'est un dessin dynamique. Donc du coup, on rejoint...
Voilà. Donc voilà, c'est du dessin comme il faut, quoi, pour ce genre de bande dessinée. Moi, j'aime bien, c'est bien foutu. C'est vrai qu'on reste sur de la BD humour, c'est très basique. J'ai dû esquisser quelques sourires en la lisant.
Non, mais... ouais, non, j'ai passé plus de bons moments que sur les psys ou... ou sur les profs, parce que forcément, en tant que prof, on t'offre la BD les profs. Ça m'a quand même plus fait rire que...
Moi, j'avoue, sur les psys, rien que voir la tête crispée du psy de temps en temps, ça me fait beaucoup sourire, parce que les dessins sont géniaux, mais bon, c'est rien à voir. C'est pas un même style graphique, vraiment. On replonge dans quelque chose d'un peu plus sérieux. Nous avons eu
plus sérieux, plus léger aussi.
Nous avons eu la chance...
Plus léger, Pas pour les mêmes raisons.
Nous avons eu la chance de recevoir un service de presse de la part de Casterman. Ça nous fait très très plaisir parce que c'est bien quand même les services de presse, non ? On va pas se plaindre.
On va pas se plaindre.
Voilà. Et puis donc bon, c'est sorti il y a quelques mois maintenant. Ça a beaucoup fait parler parce qu'apparemment il y a eu quand même un gros service de presse sur cette bande dessinée. C'est le Paulina de Bastien Vivès.
Donc on l'a classé en biographie initiatique.
Biographie initiatique. Bastien Vivès, c'est donc un jeune auteur de 26 ans maintenant, qui a commencé la BD il y a 4 ans. On vous parlera dans une prochaine émission de sa première BD, qui s'appelle Elle.
Qui a travaillé sur les autres gens aussi, non ?
Il me semble, oui, qu'il a fait quelques dessins sur les autres gens.
On en avait déjà parlé, je crois, quand on avait fait le podcast. Ouais. Le site Les Autres Gens.
Et qui donc s'attaque à une sorte de gros morceau chez KSTR, avec un beau pavé de plus de 200 pages, qui nous raconte la vie d'une jeune fille qui s'appelle Paulina, de ses débuts en cours de danse, où en fait elle est douée, un peu technique, mais voilà quoi, elle a beaucoup de potentiel, mais elle est un peu sèche, comme il lui dit, un manque de souplesse. Et sa relation avec son professeur, on la voit grandir, et on voit toute sa vie, et les relations qu'elle va avoir vis-à-vis de ses professeurs, et particulièrement son premier.
Déjà, sécheresse vis-à-vis des sentiments, en fait. Bah, donc, tes mots à toi.
Alors, parlons du scénario, pour démarrer. Le son.
Ombre et lumière.
C'est deux mots.
Ah, tu te démerdes.
Tu as dit deux mots pour le scénario, on a dit un seul.
Ombre et lumière, c'est parce que c'est une expression. D'accord. Voilà, pour moi,
c'est dire contre-jour, genre. Bon, allez, c'est pas grave. Oui. Hein, pourquoi ombre et lumière ?
Parce que justement, si tu veux, moi j'ai trouvé qu'il y avait. Il a mis des zones de lumière sur ce que.
On était sur le scénario là ?
Bah oui.
Ah oui, ah d'accord.
Et il a mis des zones de lumière sur certaines parties de la vie de Paulina et en laissant d'autres zones dans l'ombre. Ce qui fait que. T'as des parties de sa vie, t'as des moments qui s'expliquent, mais pour autant t'en as d'autres qui sont. Qui reste un peu énigmatique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là ? Tu t'imagines, mais c'est du coup tout le déroulement d'une vie quoi, qui se fait comme ça.
Il y a beaucoup d'ellipses. C'est vrai qu'on passe vraiment d'un ouais. moment à un autre. Bon, ça, scénaristiquement, c'est vrai que c'est bourré d'ellipses, dont deux qui sont très très bien marquées au milieu, qui choquent un petit peu, mais qui font une grosse rupture et qui n'est pas évidente à... C'est un moment où il y a écrit 3 ans plus tard.
Ouais, mais ça...
C'est-à-dire que pendant que tu le lis, il peut se passer 1 ou 2 ans sans qu'on ne dise rien, et puis d'un coup, au milieu du bouquin, il te dit 3 ans plus tard. T'as l'impression qu'il a fait des ellipses, mais super bien travaillées, super réussies. Et que il ne savait pas comment passer ce moment-là. Et en fait, j'en ai discuté avec lui quand il était en dédicace, et il m'a dit qu'en fait, c'était volontaire, et qu'il voulait vraiment marquer une rupture violente à ce moment-là du scénario. Et toi, ça t'a plu ?
Eh ben voilà.
Toi, t'as mieux compris son œuvre. Et c'est vrai que c'est. Très bien raconté, c'est très fluide dans la continuité temporelle, alors qu'on peut avoir 2 ans qui peuvent passer entre deux cases, quoi.
Ben, tu restes toujours, enfin, tu vas suivre le personnage, non pas pour dans sa vie courante, mais tu vas suivre le personnage pour un domaine particulier, sur toute sa vie en fait.
Oui, sur la danse, et puis sur la danse, un peu ses relations.
Et ses relations, et les sentiments en fait. Moi je dirais sur ça qui guide en fait le personnage, c'est tous les sentiments qu'elle va développer vis-à-vis de ce qui l'entoure.
Mais vis-à-vis de ce qui l'entoure, ses amis,
son professeur, le monde qui l'entoure tout simplement, l'endroit où elle vit. Est-ce que tu as une bonne dynamique ? Est-ce que c'est, voilà, est-ce qu'elle n'est pas rentrée à un moment, il n'y avait plus rien à un endroit, donc du coup elle s'en va. Parce que il n'y a plus de sentiments, donc il ne peut plus y avoir de danse. Mmh.
Moi, c'est le côté leçon qui m'a marqué, en fait. Ce vieux professeur, enfin, ce professeur qui n'est pas si vieux que ça, qui lui apprend les choses, qui a beaucoup d'ambition pour elle, en fin de compte, et elle qui part parce qu'elle ne se sent plus à sa place à l'endroit où elle est. Et c'est aussi comment la rencontre avec quelqu'un peut nous enrichir et comment est-ce qu'on peut ne pas forcément comprendre une leçon au moment où on nous la donne et l'appliquer des années plus tard. J'ai trouvé que c'était assez réussi avec la présence du professeur, et puis en plus il y a une scène qui est magistrale, je trouve, c'est quand elle se rend compte que son professeur, c'est plus le professeur qu'elle avait quand elle avait 6 ans et qu'il a grandi, il a vieilli. C'est très très joli comme scène, c'est très amené. D'ailleurs tous les professeurs ont des lunettes, je sais pas si t'as remarqué, tous les professeurs ont des lunettes, on voit pas leur regard, ils ont un côté énigmatique, un côté
Sauf le moment où
il les enlève et où il se dévoile, où il se révèle tel qu'il est réellement, d'ailleurs, et il se révèle aussi au lecteur. Ce personnage qui est du professeur, donc qui est une icône pour Paulina en fin de compte.
Son mentor. Au niveau du dessin, tu l'as classé comment toi ?
Alors, au niveau du dessin, j'ai choisi tâche.
Légèreté.
Bah, de jolies, des tâches légères, c'est ça. C'est-à-dire qu'il emploie un style graphique vraiment à base de tâches sombres qui vont définir des formes qui vont être ses personnages. Et il va réussir à assembler tout ça, tout en légèreté, comme tu le dis, pour montrer des instants de danse, des moments fixes, parce qu'on est quand même dans de la bande dessinée. Mais
le mouvement, il se suggère, quoi. Justement par la forme. C'est un... Je suis en train d'avaler un glaçon. Mais et voilà, sur les tâches, justement, c'est ça qui va te donner le mouvement, cette espèce de fluidité. C'est tout en douceur. C'est un petit moment de bonheur, les scènes de danse, je trouve.
C'est du noir et blanc avec des niveaux de gris, quand même, on peut le préciser.
Ouais.
Tramage de gris. Ça a été entièrement réalisé à l'ordinateur. Il y a un super documentaire qui était passé à la télé qu'on peut trouver sur le net où on le voit travailler. Il a une méga tablette Cintiq Wacom. Tu sais, les tablettes géantes où tu écris directement sur l'écran avec un stylo et que c'est... tous les dessinateurs ils rêvent d'avoir ça.
Il y en a qui l'ont.
Voilà, bah lui, oui, là, il travaille avec ça. Et... Enfin, très beau graphiquement, très sympathique scénaristiquement. J'ai vraiment apprécié cette lecture. Je connaissais pas le travail de Bastien Vivès. J'en avais entendu parler, mais. Comme ça, quoi. Et bah, j'ai acheté donc le premier, qui a un style graphique totalement différent. En 4 ans, c'est impressionnant. Les changements et les progressions, les choix aussi qu'il est capable de
les
faire
choix, oui.
en fonction de ce qu'il veut raconter. Un très bon bouquin, je pense, Paulina. On n'est pas les seuls à le dire.
Ouais.
Voilà.
Alors on arrive un peu après la bataille.
Je ne mettrai pas non plus comme... disons que j'ai entendu beaucoup de choses qui le citaient comme un bouquin exceptionnel, fantastique, etc. Non, je n'irai pas jusque-là. Je ne vais pas être dithyrambique. C'est une belle histoire. C'est bien raconté, c'est joli. Et c'est joli. Je pense que c'est la BD de l'année, etc. On n'en est pas encore là. On verra. Je ne veux pas finir sur une note négative, mais...
Là, dernièrement, j'ai voulu acheter une bande dessinée pour mon frère.
Ouais.
Bon, je ferai pas l'analyse psychologique ensuite de mon choix, je vous le donnerai pas, mais on l'a déjà chroniqué. Mais l'air de rien, pour offrir une bande dessinée aujourd'hui, tu veux offrir quelque chose, ok. Mais soit tu veux acheter une bande dessinée à quelqu'un qui a un truc à suivre.
Ouais.
Soit c'est une série qui est terminée, dans ce cas-là, tu vas te taper un intégral à 50-60 €. Donc soit ce sera un truc à suivre et lui n'achètera jamais la suite, donc du coup tu auras pour 8 ou 10 ans d'anniversaire et de Noël confondu.
C'est pas mal.
Soit tu vas acheter donc des one-shot.
18 €.
Et ben voilà, mais les one-shot, l'air de rien, ça devient quand même assez rare et il faut aller vers des éditeurs qui sont pas forcément les plus en avant dans les magasins, quoi.
Costermont quand même.
Sur le rayon BD, on en connaît un autre, hein.
Donc 18 €, c'est vrai. Et puis un autre truc aussi qu'on pourrait dire sur le scénario, ça parle de danse, mais ça pourrait parler d'autre chose, je pense. Sur la relation au professeur. T'es pas d'accord ? Tu penses que vraiment... Parce qu'il n'est pas danseur, hein, Bastien Vivès. Hein.
Mais ça, je sais pas moi ce qu'il fait, mais très honnêtement, c'est son loisir. Hein. C'est beau si la danse... Non, je pense que c'est... Non, il fallait que ce soit de la danse.
Ouais.
Parce que sur un autre enseignement... Il faut qu'il y ait une relation au corps.
Je suis pas aussi d'accord. Je suis pas totalement d'accord avec toi.
Si t'as pas une relation au corps, tu vas pas justement avoir cette espèce de lien entre les sentiments que tu as et l'utilisation que tu vas en faire.
Ouais. Pour résumer, avec ce qu'on a pu dire sur Black Swan et ce qu'on dit sur Paulina, on va bientôt croire qu'on est vraiment un podcast de tapette. C'est pour ça que on enchaîne avec.
Ça c'est petit. Ça.
Le petit chaperon rouge. Collection Pouce Bambou, dessinée par Domas. Quoi ?
Je dis rien.
Tu dis rien ? Je t'ai perturbé par cette transition magistrale.
Je préférais la mienne avec les tatouages de viking.
De la jeunesse, muet. Voici nos deux mots.
Pour le jeunesse, genre. Et on pourrait faire muette, comme ça on fait une
muette,
liaison.
Ouais, ça marche mieux. Oh, bah voilà, on voit le professeur qui parle. Et bien d'ailleurs, professeur, parle-nous donc de ce livre. Et d'abord, parle-nous de la collection Pousse de bambou.
Alors,
Chez Bambou.
chez Bambou. Alors, c'est une collection déjà qui est toute neuve, parce que le premier tome est paru il n'y a pas très longtemps.
Bah, cette semaine.
Voilà. Alors, le principe. Des BD pour ceux qui ne savent pas encore lire. Principe de départ. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une bande dessinée qui raconte une histoire, mais dans la bande dessinée, il n'y a pas de bulles.
Tout est muet. S'il y en a, c'est des bulles qui vont contenir des dessins. Ouais. Pour expliquer certains moments. Pour expliquer... Le personnage parle et parle de ce dessin.
Donc du coup, même si on ne sait pas lire, on suit les images et on suit l'histoire. À la fin de l'histoire, donc, il y a l'histoire écrite, illustrée.
Ouais. Donc on a le texte.
On a le vrai texte. On a le texte.
Alors c'est pas le texte original, mais c'est un
texte. Mais c'est le texte. Et on a aussi des petits cours de dessin.
Qui nous explique comment dessiner les personnages.
Bon, soit dit en passant, pour quelqu'un qui ne sait pas encore lire, s'il dessine comme ça, c'est peut-être pas la peine qu'il apprenne.
Oui, au niveau du dessin, enfin, bon, moi je dirais que c'est la partie la moins adaptée dedans, c'est le cours de dessin. Quoique, peut-être que quelques années après, le môme qui retombe dessus pourrait se dire tiens, je vais essayer de dessiner parce que c'était mon livre que j'adorais quand j'étais môme.
Ouais.
J'en sais rien. Mais c'est vrai que autant le côté bande dessinée.
Sans texte.
Et c'est très découpé.
C'est une excellente idée en plus.
C'est très très découpé. Bon, il y a déjà eu des éditeurs qui ont fait de la BD sans texte, mais là, faire une collection là-dessus.
Bah, surtout avec des titres comme ça du classique.
Oui, quelque chose qu'on connaît déjà.
Bah, justement, d'ailleurs, tiens, qu'est-ce que tu as dit pour le scénario?
Bah, classique.
Roots.
Donc, c'est du classique Roots, quoi. On est vraiment dans du conte.
C'est la base de tous les. De toutes nos histoires en théorie quand on était petit, quoi.
Et sur le dessin
Mignon.
Rond.
Un mignon rond.
Je voilà. trouve un style très très rond. D'ailleurs, pour connaître un peu le dessin de Domas, c'est pas son style de base. Il faut savoir que apparemment tout ce qui est caractère design a été fait par Bruno Bessadi. C'est une collection, faut aussi savoir, qui a été menée par les gens du Zarmatelier, apparemment Richard DiMartino en tête, qui a lancé le thème, Richard DiMartino et Domas, en fait, qui voulaient faire des trucs pour leur môme. Et c'est plutôt réussi, quoi. Mm. Je trouve aussi, en plus, que c'est très découpé. C'est-à-dire qu'on a très peu d'ellipses dans la façon de raconter le conte. Il y a quelques dessins ludiques. Il y a une très jolie planche, par exemple, où on voit un plan du chemin qu'ils vont prendre pour se rendre jusqu'à la maison de la grand-mère, qui est assez bien fait, qui explique très clairement. Et surtout, c'est la première fois que je comprends ce que veut dire la phrase « Tire la chevillette et la bobinette, chéra !» J'avais jamais compris cette phrase, je me suis dit « Ouais, ça doit être un truc de vieux. » Et là, il y a un dessin qui explique ce que ça veut dire.
Et la chevillette a chu.
Voilà. Je suis content d'avoir enfin compris ce moment-là.
Alors oui, alors c'est quand même pour vous dire que, du coup, dans l'histoire dessinée, c'est vraiment l'histoire, on va dire, authentique. Hein. Il n'y a pas de... Si, parce que t'as. Enfin, bon, là sur la fin, mais c'est normal.
C'est la fin joyeuse, quoi.
Oui, mais il faut bien une fin joyeuse pour les petits.
Voilà, c'est pas la fin. Hein.
Mais voilà, il y a vraiment des petits passages qui sont vraiment dans.
C'est pas la fin de Perrault, quoi. Hein,
bah ouais, mais il faut bien.
La collection est super intéressante.
Bon, moi, je trouve. Pour tous les instits, ce sera intéressant aussi.
Ouais. Toi, en tant qu'instit, c'est le genre de truc que tu utiliserais? Peut-être pas avec tes élèves, ils sont trop vieux, mais.
Non, même.
Même?
Même, quand tu veux travailler la narration, quand tu veux travailler les ellipses.
Le sens de lecture.
Le sens de la lecture, tout ce qui est anticipation sur la suite du récit. Tu peux faire plein de trucs là-dessus. Hein. Tu as plein d'activités au niveau écriture qui peuvent être intéressantes.
Et il manquerait plus qu'un truc, c'est que Bambou fasse des petits livrets pédagogiques avec des trucs photocopiables pour refiler dans les classes, genre récupérer les têtes des personnages pour faire tes fiches et compagnie.
Ou alors qu'il fasse un petit livret avec donc les planches, les mêmes, mais en fait où il rajoute des bulles. Qui sont à remplir pour travailler le dialogue, pour
c'est une idée. Voilà. En tout cas, est déjà paru Le Petit Poucet par Richard DiMartino et devrait paraître Boucle d'or et les trois ours par Bruno Bessadi, Hansel et Gretel par Mathilde Domecq, tous membres du Zarmatelier. Mais quelle coïncidence! On a dit déjà qu'on les interviewait,
ouais, dans
et que t'allais être fatigué,
ouais, que j'allais être très fatigué.
Nous allons faire une petite pause en passant donc une interview de Le Reculé, le dessinateur de Wolodrin. Une interview donc qui a été faite par un membre de Virus BD, qui dure une petite quinzaine de minutes. Je vous mettrai des liens pour pouvoir trouver des critiques sur cette BD si vous avez été intéressé par cette interview. et on se retrouve dans 15 minutes.
On voudrait en savoir un petit peu plus, donc, pour commencer, sur ta rencontre avec David Chauvel et ta collaboration plutôt privilégiée que tu as avec lui.
Alors, David Chauvel. Alors, David Chauvel habitait à Rennes, et moi aussi. Et on était dans le même lycée, on était dans le même cours de sport. Et là, je le connaissais de vue, forcément. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi, je faisais partie d'un groupe fanzine sur Rennes qui s'appelait Hachoum. Et dans ce groupe, il y avait un dessinateur très talentueux qui s'appelle toujours Erwan Fages. Et Erwan, il y a Jean-Claude Camano qui ont fait se rencontrer et collaborer Erwan et David. Et donc, du coup, comme David a commencé à travailler avec Erwan, je l'ai rencontré. Parce qu'avec Erwan, on était très très proches, on était un peu tout le temps ensemble. Et puis là-dessus, ça a fait que le rencontrant, et que David s'est lancé, il a commencé à travailler, il a commencé à faire des projets de scénario avec Erwan Le Saec et compagnie. Moi, j'ai commencé, quand je me suis lancé, j'ai commencé avec Pierre Dubois. Mmh. Et ensuite. Et comme Pierre Dubois donne un scénario sous forme de nouvelle, qui n'est en fait pas découpé, pas préparé, on doit tout faire, là déjà David m'aidait. C'est-à-dire que je lui donnais la nouvelle, et il me prédécoupait la nouvelle. Alors lui en même temps ça l'entraînait à découper, et puis moi ça me rendait un grand service. Et donc voilà. Et donc après, j'ai fait deux albums avec Pierre, et David après... en cours, je lui ai demandé si je pouvais pas faire aussi un truc avec lui, histoire de faire plusieurs choses, comme j'avais plein d'envie, j'étais tout jeune. Et puis il m'a proposé Nuit Noire, et puis voilà, alors après c'était parti quoi, on a commencé à travailler ensemble, et puis depuis, on travaille toujours ensemble.
Bon, David Chauvel, on peut dire que c'est un scénariste plutôt prolifique. Est-ce qu'il te permet d'apporter ta touche personnelle au récit, des choses que tu as envie de modifier, l'histoire en fonction de tes envies à toi aussi?
Pas vraiment. Enfin, disons qu'avec David, ce qu'il faut, c'est qu'on s'est toujours mis d'accord au démarrage, quoi. Même sur Nuit Noire, par exemple, il m'a fait lire l'histoire, ce qu'il avait prévu. Là, au démarrage, alors qu'il n'avait rien commencé, qu'il avait juste fait un synopsis, là, oui, je me suis permis de faire des remarques, et puis il y a eu des modifications et tout ça. Mais une fois que le scénario est fait, non, je me permets pas de refaire travailler David en changeant l'histoire. Par contre, au démarrage, on se met d'accord, ouais, sur l'univers, sur... il me raconte l'histoire. Si vraiment il y a un truc qui me choque, je lui dis, mais en général, non. Puisqu'il n'y a pas lieu. Et puis, par exemple, sur Volodrine, en cours de réalisation, on s'est rendu compte dans la première version qu'il y avait quelques trucs qui ne collaient pas trop. Alors, on en a discuté, puis on a changé des planches, on a remanié la pagination. Enfin, oui, on a quand même un aller-retour. Hein. Mais bon, moi, je participe pas vraiment sur les péripéties précisément. Quoi.
Au niveau coloriste, moi, on peut pas dire que tu es un coloriste attitré ou fétiche, tu as travaillé avec Jean-Luc Simon notamment, mais bon, avec sur d'autres albums, tu as travaillé avec d'autres personnes. Quel est ton rapport à la couleur, à la mise en couleur?
Disons que j'en fais pas de couleur, non, je sais pas faire ça, j'en fais très peu. J'essaye, j'ai pas de facilité, on va dire, et puis je pense pas en couleur, je suis vraiment assez ouvrier spécialisé dessin, moi.
D'accord.
Donc, au niveau de la couleur, je délègue parce que je saurais pas faire. Et peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors après, pour ce qui est de mon travail avec les coloristes, en général, ils font... Bon, s'il y a des trucs précis, on leur dit, voilà, là c'est la nuit, là c'est le jour, là c'est... Enfin, on dégrossit un peu les choses, et puis s'il y a vraiment une couleur de cheveux précise ou quelque chose comme ça, on le dit. Mais autrement, ils sont vraiment libres comme l'air, du moment que c'est bien, ils font ce qu'ils veulent.
Tu choisis ton coloriste tout le temps ou des fois l'éditeur peut t'en donner un, t'en imposer un éventuellement?
C'est souvent David qui s'occupe du coloriste, hein, qui a plus de rapport avec eux, de par aussi son boulot de directeur de collection. Donc il sait qui fait quoi. Et puis du coup, il propose, et puis on fait des tests, et puis voilà, ça se passe tout naturellement. Mais moi, non, je m'en occupe pas, sauf sur Séraphin où c'est moi qui l'ai trouvé, parce que c'est... La coloriste, c'est la fille d'un copain. Et comme on n'avait pas de coloriste, on cherchait. Et puis j'ai pensé à elle. Et comme elle a accepté, c'était vachement sympa de sa part. Mais voilà, c'était.
Donc généralement, la couleur, tu t'en soucies pas trop, quoi.
Non, non. Juste sur Séraphin où j'étais un peu plus derrière. Parce que bon, voilà, c'était moi qui était le contact avec elle. Elle habite pas trop, trop loin de chez moi. Et puis voilà, quoi.
Tu as illustré l'édition française de Voyage de Frodon.
Ouais.
L'esthétique que tu as développée en travaillant sur les séries scénarisées avec David Chauvel s'y prête plutôt. On te sollicite souvent pour ce genre de projet ?
Non.
Hop, voilà, question suivante.
Ben non, j'ai eu de la chance de faire ça, c'était une super occasion. Je suis super content de l'avoir fait, parce que c'est une chance unique. Hein.
D'accord.
Travailler sur les Seigneurs des Anneaux, c'est pas tous les jours qu'on nous propose de faire ça. Hein.
Donc, oui, c'est génial.
Ouais. Donc moi j'ai eu la chance grâce à Pavillon Rouge. Parce qu'en fait, Pavillon Rouge, ils avaient fait un numéro spécial Tolkien. Et dedans j'ai fait une illustration et plein de petites illustrations avec Gandalf, avec Gimli, Aragorn et compagnie. Et Gollum et compagnie. Et donc, et Frodo évidemment. Et donc, voyant ça, ils cherchaient un dessinateur pour cette traduction là. Ils cherchaient un dessin assez simple qui prenne pas trop le pas sur les cartes. Qui soit pas trop noir, pas trop. Donc du coup, ils m'ont demandé, j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà. Et j'ai eu de la chance, ils m'ont pris.
On se posait une petite question sur l'influence qu'a pu avoir éventuellement, puisque tu as travaillé un peu sur le Seigneur des Anneaux, l'influence qu'a pu avoir des travaux comme ceux d'Alan Lee sur.
Oh bah Alan Lee, je suis un fan. Hein. Justement, David, à l'époque, donc je sais pas quel âge j'avais, à peu près 20 ans, quelque chose comme ça, David m'avait rapporté le Fairies d'Angleterre, parce qu'on le trouvait plus en France, et donc il m'avait rapporté ça, à l'époque déjà. Et donc ça, c'était un de mes livres fétiches, je l'ai regardé, et encore regardé, et un peu re-regardé aussi. Et puis aussi donc la version aussi du Seigneur des Anneaux après qui était sortie, Seigneur des Anneaux illustré par Alan Lee. Alors Alan Lee, je suis un gros fan, c'est une de mes idoles. D'ailleurs j'ai eu de la chance, je l'ai rencontré à Trolls et Légendes en 2007. Trolls et Légendes, c'est le festival fantasy d'Europe.
D'accord.
C'est un super festival qui a lieu à Mons en Belgique. Et où tout est réuni, tout ce qui est autour de la fantaisie, c'est-à-dire que tu as t'as une partie figurine, jeu de plateau, jeu de rôle, tout ce qui peut être jeu, jouet, autour de la fantaisie. Après, tu as une partie littérature avec, donc, littérature roman, et puis aussi, donc, bande dessinée, et aussi tout ce qui est illustration autour de la fantaisie, donc le livre. Et puis ensuite, tu as le marché féerique, où alors là, c'est tout ce que tu veux, comme bric-à-brac, des épées, des armures, des cornes à boire, tout le matériel que tu peux acheter autour de la fantaisie. Et ensuite, t'as donc la restauration. Et après, t'as l'espace concert, où donc t'as la musique. Inspiration celtico. Celtique un peu, mais avec toujours autour de thèmes assez fantastiques, quoi. Donc c'est vraiment génial. C'est dans un lieu. Si t'aimes la fantasy, le fantastique, c'est excellent. Trolls et légendes, il y en a un cette année, hein, c'est en avril. Il va y avoir lieu. C'est fin avril. Et j'y serai.
La grande majorité de tes albums traitent de magie, légende, de fantastique. Est-ce que tu aimerais travailler sur quelque chose de complètement différent, comme de la science-fiction, des récits plus intimistes, peut-être pour explorer d'autres univers graphiques ou d'autres techniques de dessin?
De toute façon, pour l'instant, moi, c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de trucs fantastiques. C'est vrai que c'est ce qui m'attire le plus à dessiner. Après, la science-fiction, pourquoi pas. J'avais une idée à une époque avec David, mais bon, ça s'est pas concrétisé. Bon, en fait, je suis assez ouvert. Hein. Pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, j'ai exploré une partie de ce que j'avais envie de dessiner. Bon, j'ai fait quand même du polar, un peu différent. J'ai fait un peu de jeunesse. J'ai fait Veillée funèbre. C'est pas de la fantasy.
C'est fantastique.
C'est toujours un peu fantastique, ouais. Bon, c'est vrai que c'est quand même le plus rigolo à dessiner, faut avouer. C'est ce qui m'amuse le plus personnellement.
Tout à l'heure, on me disait que t'aimais pas forcément tout ce qui était un petit peu voiture à dessiner, tout ça. Alors peut-être que les vaisseaux spatiaux, ça ne doit pas non plus te brancher trop.
Ah, quoique, il y a quand même plus d'inventions et de fantaisie à mettre dans les vaisseaux spatiaux que dans les voitures.
Oui, donc ça serait des choses plus.
Mais bon, oui, enfin les voitures, c'est vrai que dans Nuit Noire, j'étais pas franchement le pro des voitures, on peut pas dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, je ferai un petit effort.
Au niveau des lecteurs qui fréquentent les festivals BD, beaucoup de monde sait que tu soignes bien tes dédicaces, que tu fais quand même pas mal de festivals et puis de rencontres comme ça en librairie. Est-ce qu'il est arrivé qu'un certain lecteur abuse un peu de ta gentillesse ou te demande des choses un peu étonnantes ou absurdes ?
Bon, abuser, non. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme truc qui m'a marqué ? Je trouvais rigolo.
Des choses bizarres.
Ouais, non, j'ai pas grand-chose. Si, j'ai fait Arthur contre une poule. J'ai fait ce genre de choses. Il y en avait une qui était originale, qui était assez rigolote. C'était, j'avais dessiné mon atelier. Dessinez votre atelier de tête, comme ça. Où est-ce que vous travaillez, votre endroit? Ça, c'était assez marrant. Mais autrement, je me souviens pas trop. Bon, rien d'extraordinaire, quoi. Ouais, le tout dont je me souviens, c'est Arthur contre une poule. Ça, oui.
Oui, c'est assez délirant.
Ça a été assez dantesque comme combat.
Ça devait être quelque chose. Ton nouvel album, alors Volodrine,
enfin Volodrine. Nous c'est comme ça qu'on le dit.
D'accord. Reprend le cadre et certains personnages de cette voleur.
Ouais.
Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'album pour donner envie à nos lecteurs, à nos visiteurs, les visiteurs de notre site internet de le lire et de le découvrir?
Oh. C'est vachement facile comme question.
T'es pas obligé de répondre, si t'as pas de réponse.
Mais je sais pas, si vous avez aimé cette voleur, je pense que vous aimerez Volodrine. Et puis, pour ceux qui connaissent pas cette voleur, ben voilà, c'est un univers tolkienien. Que moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner. Voilà.
C'est déjà ça. Au niveau des libraires, des festivals... Qu'est-ce que ça t'apporte encore de venir dans les festivals, chez les libraires, comme ça? T'as besoin de ça? C'est important pour toi?
Ouais, bah disons que moi, il y a plusieurs choses qui motive le fait d'aller en librairie ou en festival. Donc déjà, d'une part, la dédicace, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup cet exercice. Donc finalement, je me rends compte que j'en ai besoin. Et que donc c'est pour ça que je me débrouille toujours pour avoir au moins une dédicace par mois, parce que c'est un exercice qui me fait du bien et voilà, j'en ai besoin pour mon dessin. Donc et d'une. Et puis de deux, ben comme ça on voit un peu de pays, on rencontre les lecteurs, on voit comment ça se passe, on a quelques remarques, quelques critiques ou quelques encouragements, donc c'est toujours agréable de sortir un peu de son trou, vu que je passe à peu près tout mon temps autrement dans mon bureau. Et puis autrement, c'est aussi l'occasion de voir les copains dessinateurs, de rencontrer des dessinateurs qu'on n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer, et voilà, des fois même de rencontrer des légendes vivantes, du genre Alan Lee. Voilà, donc il y a plein de super bonnes raisons pour aller se promener comme ça, au quatre coins du monde.
D'accord.
En plus, à faire des petits dessins, ce qui est quand même un exercice plutôt sympathique. Il y a pire dans la vie.
Tu fais pas ça dans un esprit promotion de l'album, pas spécialement en fait.
Oh ben disons que. Je sais pas si ça sert à grand chose au niveau de la promotion de l'album en fait. C'est ça. J'en sais rien, j'en sais rien.
Un album.
Peut-être, ouais, faire connaître un peu de visibilité. De toute façon, ça fait un peu de visibilité, ouais. Ça... Mais après, est-ce que ça compte vraiment? J'en sais rien. Je me rends pas compte. Mais moi, en même temps, c'est vraiment parce que ça me fait plaisir d'aller faire des dessins, quoi. D'aller dédicacer. Et ça me fait plaisir et même ça me fait du bien. Donc voilà, là, ça c'est une bonne raison à mon avis pour se déplacer.
Aussi.
Ben, c'est gentil, écoutez, tout le monde est content. Non, non, mais c'est vrai que c'est important comme truc.
Voilà, vous pouvez lire le transcript de cette interview sur le site Virus BD. On mettra tous les liens. Et maintenant, nous allons passer à notre intégrale. Le meilleur de moi de Dumez et...
Colonel Moutarde.
Le meilleur de moi est une série en 3 tomes sortie chez Humour Libre, qui est Humour Libre, je crois que c'est Dupuis, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. On s'en fiche, chaque tome coûte dans les 9,50€. Et ça nous raconte les mésaventures d'un
geek.
Jeune homme. Oui, on peut dire un jeune homme geek. Ouais, enfin, geek moderne, ex-geek, on va dire. Quand même grandi, qui nous raconte dans des histoires courtes
toute sa vie,
des moments de vie. Et le genre, c'est de humour nostalgie. Humour parce que c'est raconté avec humour, nostalgie parce que ça nous fait des références à des moments nombreux de sa vie sympathiques. Chaque tome s'intéresse un petit peu à une thématique principale et contient des histoires plus ou moins longues, c'est-à-dire que dans chaque tome, on a toujours une histoire qui prend un peu plus de place. Le premier tome, qui s'appelle Entre chats, nous raconte un petit peu sa vie quotidienne avec sa copine. C'est-à-dire, ils vont avoir un chat, ils vont acheter des meubles, ce genre de choses-là.
La vie courante, quoi.
Et c'est toujours traité de façon un peu en décalage entre le narrateur et le dessin. On a toujours une case avec un dessin et un petit texte explicatif dessous. C'est très très narré, beaucoup de voix off, en fin de compte.
Je sais que c'est un peu lourd à lire après.
Parlons déjà du style graphique.
Simple.
Dynamique. Simple et dynamique. Le colonel Moutarde a un style graphique très sympathique que vous connaissez peut-être car pendant très longtemps elle faisait le dos des boîtes de Chipster. Ouais. Et elle a été énormément copiée aussi dans la pub et la com. On retrouve beaucoup de dessins qui sont copiés sur son style graphique. J'adore ce qu'elle fait. C'est beaucoup plus simple que ce qu'elle a pu faire par la suite sur une série comme Maya, une série jeunesse qu'elle a sortie il n'y a pas longtemps. C'est vraiment des formes très simplifiées, très légères, des couleurs en aplat avec juste un aplat différent pour montrer un peu de relief. Et le scénario.
Personnel.
Moi. Bon, moi personnel.
Je crois que tout est dit. Hein.
Pourquoi personnel ?
Tout le monde se reconnaît dans enfin voilà, c'est un peu pareil que les geeks. Bon, les geeks c'était les passions de chacun.
C'est un côté vraiment gag. Des
voilà.
Geeks. Là, moins.
Là, c'est un côté la vie avec sa moitié quoi. Et puis tous les petits trucs de la vie.
Puis il y a des moments où tu ris jaune aussi dans le meilleur de moi.
Il y a les moments où tu as aussi les mauvais moments de la vie en couple.
Mais toujours raconté de façon drôle. Mais tu sens que...
Avec de la dérision. Oui. Beaucoup de dérision.
Enfin, tu sens que il retourne en arrière, quoi. Il fait un petit... Comment ? Il se souvient de ce moment qui devait être difficile au moment où il a vécu et il le raconte de façon un peu plus sympathique. Dans le deuxième tome, qui s'appelle...
La force est avec moi.
Là, il y a tout un passage très sympa sur le fait que la plupart de ses meilleurs amis, il y avait un rapport avec Star Wars. Il nous raconte toute sa découverte de Star Wars, alors qu'il était môme, que ça arrivait au cinéma, qu'il a eu des amis qui étaient plus ou moins cinéphiles, plus ou moins collectionneurs, et avec qui il a perdu plus ou moins contact, pour des raisons plus ou moins drôles. Toujours raconté, pareil, avec ce côté un petit peu dérision, retour sur soi-même. Il se met pas forcément en valeur non plus. Et... Le troisième tome, lui, qui s'appelle Enfantillage, va s'intéresser au fait qu'il devient papa. Il devient papa. D'autant qu'il nous explique qu'il y a quand même une période de rupture à un moment hein, dans sa vie. Qui est très très. L'ellipse est très forte d'ailleurs sur cette période-là. Il ne s'est pas concentré dessus.
Disons que tu veux bien mettre toute ta vie, mais tu ne veux peut-être pas non plus mettre tous les morceaux non plus, surtout ceux, on va dire, peut-être les plus douloureux.
Oui.
Enfin, tu veux bien être maso, mais il y a un moment, il y a quand même des limites.
Et puis, il y a aussi tout un côté que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait d'admettre d'avoir fait ce bouquin. En début de tome 2, il s'éclate à raconter tout le moment... En fait, ce qui s'est passé, du fait qu'il ait publié le bouquin en donnant les vrais noms, en donnant les vraies adresses, en donnant les vraies informations.
Ça a fait des vrais soucis.
Sans se rendre compte des vrais soucis que ça pourrait poser. En fait, il en a pas eu, hein, mais il s'est beaucoup inquiété d'un coup sur le coup à la sortie du bouquin. Il s'attendait à ce que ses voisins viennent le taper parce qu'il disait du mal d'eux. Et donc, bah, moi, c'est une série qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. C'est de l'autobiographie. C'est très, très léger, très dynamique. Et on se reconnaît dedans. Si j'ai dit le mot « moi », oui, tu viens de te faire agresser par un chat. Ce sont des choses qui arrivent. Si j'ai dit le mot « moi » pour définir le scénario, c'est que je me suis reconnu dans beaucoup de points, dans beaucoup de mes relations avec, avec mes amis, avec mon épouse, qui me fait aller chez Ikea pour acheter des trucs. Voilà.
Qui ne va pas chez Ikea ?
Oui. Mais oui, mais combien d'hommes vont chez Ikea parce qu'ils aiment ça ?
Oui.
Et oui.
Chez Ikea, tu reviens toujours avec quelque chose.
Et oui.
Au minimum, des crayons.
Des crayons.
Ben voilà, donc le meilleur de moi, on va passer peut-être au online.
Bah au meilleur du mieux.
Ah oui, le meilleur du mieux, exact.
Le meilleur du mieux. Tu comprendras maintenant d'un coup d'où vient l'origine de ce titre.
Le meilleur du mieux...
Alors,
moi je l'ai, Paulina.
Oh, c'est tellement bon que ça fait mal.
Con ton chat, enfin un de tes chats d'ailleurs.
Ouais, moi j'ai mis à Slack.
T'as mis à Slack, ok.
Et oui, parce que Paulina est sympa, comme je disais, c'est une très bonne lecture. Mais ça m'a pas forcément envie de continuer. Enfin.
Bah, tu peux pas continuer.
Non, mais dans ce genre de bouquin, quoi. Je suis content, je l'ai lu, c'était bien. Maintenant, c'est vrai qu'Aslak m'a vraiment, vraiment rendu curieux de savoir comment est-ce que ça allait se suivre, et j'ai très, très hâte de lire la suite. Voilà.
Ouais.
J'avais envie de mettre en avant un petit peu une BD à suivre aussi.
Ok. Moi, tu vois, en même temps, en ce moment, je publicite les one-shots, parce que j'en ai marre des séries à suivre, donc...
D'accord.
Tiens, je vais ressembler à un de nos futurs invités, de la semaine prochaine.
Oh.
Qui lui aussi n'aime plus les séries à suivre.
Online.
Yeah.
Petit retour sur Les Autres Gens qui vient de sortir en album. Ça fait maintenant un an, un peu plus d'un an, que Les Autres Gens existent. Cette BD novella à suivre tous les jours de la semaine, pas le week-end, qui contient des tonnes de planches de BD. À savoir que le tome 1. Qui est sorti en album, contient 250 pages et correspond environ à un mois de publication. C'est une série qui est principalement scénarisée par Thomas Cadden, même s'il laisse des invités le remplacer de temps en temps sur certaines histoires, et dessinée par de nombreux auteurs, tous plus variés les uns que les autres, et tous plus ou moins talentueux. Après, c'est une question de goût. Pourquoi est-ce que je veux remettre cette série en avant ? Premièrement, parce que au début, j'étais un petit peu circonspect. Et puis, j'ai eu un accès aux archives et j'ai un peu relu ce que j'avais manqué et j'ai découvert qu'il y avait quelques points qui étaient en fait bien menés et intéressants. On découvre qu'il y a une sorte de complot bien amené au niveau du scénario, même si le plus important reste toujours les relations entre ces personnages et tout ce côté soap, quoi, plus ou moins appréciable, mais du soap avec du cul, parce qu'ils peuvent en faire. Ils ont droit dans la BD. Et puis surtout des personnages très intéressants comme Louis, homme fortuné, qui adore manipuler les gens et qui développe une sorte de réseau qui lui permet de faire des manipulations très 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 avancées. Beaucoup de mystères là-dessus, ce qui m'a beaucoup plu. Ensuite, je voulais saluer le fait que ça dure depuis un an, que c'est toujours accessible à 2,90€ par mois, ce qui n'est pas très cher. En fin de compte, vu la quantité de bandes dessinées. Bref, un très 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 beau projet.
Les grands moments de solitude de
Michael Guérin. Les grands moments de solitude de Michael Guérin. Michael Guérin vient d'arriver dans une entreprise.
Et il a un humour certain.
Un humour certain. Que nous compte Marc Dubuisson ? C'est disponible sur le portail Lapin, lapin.org. Et ça nous raconte donc l'arrivée de cet homme qui remplace...
Une personne qui est partie.
Qui est partie, qui est décédée. Sauf que ce cher Michael Guérin a un grand souci, c'est qu'il a beaucoup d'humour, mais un humour un peu noir, qui ne convient pas forcément à toute situation publique. J'avoue être parfois sujet à ce genre de soucis.
Ouais, ça fait en fait des grands moments de solitude, ou des fois des grands blancs.
Des grands blancs. Et donc c'est très très drôle. C'est tout nouveau, donc il n'y a pas encore des tonnes de planches.
Donc vous n'avez pas beaucoup de retard. J'ai tout lu, pour une fois.
Voilà. Marc Dubuisson, donc, l'auteur, voulait proposer chercher un éditeur. Apparemment, il l'a trouvé. Et à partir du moment où il a trouvé l'éditeur, l'éditeur lui a permis de les mettre en ligne sur le portail Lapin. Donc je crois que ça va être War Room qui va l'éditer.
En tout cas, c'est très sympa, très drôle. J'aime l'humour. Ouais.
Le style graphique est très particulier. On est avec une sorte de... On est dans un dessin très stylisé, très très proche du bonhomme bâton, en fin de compte. Mmh. Bon, quand même un peu plus fouillé. Mais qui colle très très bien au côté ambiance, au côté corporate, je trouve. Oh. Les personnages font vraiment personnages de bureau. Mmh.
Il a dit...
Tu nous fais des bruitages sur ce podcast, Thio, qui sont assez hallucinants.
Mais je refais ton chat.
Bref, c'est pas très professionnel tout ça.
C'est Doudou, il est professionnel, Doudou. Excuse-moi, mais dans le câlin, là, est-ce que c'est pas un pro, ça?
Donc, les grands solitudes de moi, sur bureau.lapin.org, c'est très très sympa, nous on a beaucoup aimé. Nous pouvons conclure.
Je valide, j'ai beaucoup aimé aussi. Beaucoup aimé.
Voilà. Nous pouvons conclure avec notre page Facebook, hein. Vous êtes plus de 200, ça nous fait plaisir. Vous pouvez continuer à dire que vous aimez notre page. Vous pouvez nous écouter toujours sur iTunes, vous pouvez toujours nous laisser des commentaires sur iTunes et sur le blog, ça nous fait toujours plaisir. Si vous voulez nous soutenir, c'est le meilleur moyen et ça coûte pas grand chose. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi, quand vous voulez acheter une DVD qu'on a conseillée, cliquer sur le widget Amazon qu'on vous propose, si vous faites vos courses chez Amazon.
Ou même en fait, si vous voulez pas acheter une BD qu'on a conseillée, vous passez quand même par le widget à Amazon.
Ouais. Et ça nous fait gagner pas grand chose, mais assez pour nous acheter de temps en temps une nouvelle BD, donc on pourra vous chroniquer. Merci à vous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour notre HS avec Bruno Bessadi et Richard DiMartino. Et dans 15 jours pour une émission, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire exceptionnel. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Il perd vachement ses poils quand même. Attends, sérieux, regarde la dos. Et j'ai une touffe sur ma feuille.